Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Hannah Chidiac. Je suis responsable de l'unité patrimoniale Afrique du Nord et Proche-Orient au musée du Quai Branly. Et donc, je suis commissaire scientifique de l'exposition L'Orient des femmes, vue par Christian Lacroix. On m'a demandé donc de faire cette petite présentation de mon exposition. J'avoue que je l'ai faite à toute vitesse parce que j'ai, depuis le début, depuis la dernière année, ça a été terrible pour moi, pour le travail, la préparation de l'exposition, les textes, le catalogue et l'inauguration lundi, ça a été un vrai marathon. Je suis en train de découvrir la vie de, entre guillemets, des stars où j'ai enchaîné lundi matin les interviews de 9h30 jusqu'à tard dans l'après-midi. Donc, je vous ai fait une petite présentation. Ce n'est pas du tout une présentation scientifique. Je présente un petit peu les coulisses de l'exposition. Je vais vous faire voyager avec moi. Je vais vous raconter comment est née cette exposition, comment, où je suis allée, ce que j'ai fait. Et puis, voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous levez la main et puis voilà, on discute, on échange. C'est pas un cours scientifique que je suis en train de faire, mais bon, un petit voyage donc pour découvrir cette exposition. Pourquoi L'Orient des femmes, déjà le titre que j'ai choisi. L'exposition, l'idée de l'exposition est née il y a 3 ans. C'est en général le temps qu'il faut pour réaliser une exposition. Dans les collections du musée du Quai Branly, sachant que j'ai travaillé 17 ans à l'Institut du monde arabe et je suis au Quai Branly depuis 8 ans. Donc les premières années, j'ai beaucoup travaillé sur les collections. Et dans ces collections, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir un ensemble de textiles qui est très, très intéressant. Donc dans ces collections, il y avait essentiellement des costumes et des parures de femmes, aussi bien du monde citadin, comme ce caftan qu'on voit à gauche, que du monde rural et bédouin. Ces costumes sont arrivés, les plus anciens, sont arrivés dans les années 30, à l'époque où le Proche-Orient, la Syrie et le Liban surtout, étaient sous mandat français et que donc les militaires qui étaient sur place et les privés, les particuliers, ont commencé à ramener au Musée de l'Homme, à faire don au Musée de l'Homme de collections qu'ils collectaient sur place. Nous avons des noms comme Pierre Rondeau, comme Albert Bushman, toutes ces personnes qui ont travaillé. D'ailleurs, les premiers musées sont nés à Damas et à Beyrouth à cette époque, fondés donc par les Français. Donc, ces premières collections vont arriver à enrichir les collections du Musée de l'Homme. Donc, on voit toutes ces parures de tête, ces coiffes, même des poupées qui sont habillées de tenues traditionnelles. Très vite, je me suis posé la question, je me suis dit, il y a de quoi faire. Montrer au public cet art vestimentaire qui est méconnu était pour moi très, très important. Mais très vite, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais montrer ? L'art citadin ou uniquement, ou les deux, ou l'art rural ? La réponse a été, voilà, je l'ai prise, ma décision, je l'ai prise très rapidement. Les costumes du monde citadin, comme le caftan qu'on a vu tout à l'heure, je pense que le public le connaît déjà. Les femmes s'habillaient dans la ville, dans les grandes villes du Proche-Orient, à la mode d'Istanbul. Elles mettaient ces caftans qui étaient taillés dans des étoffes précieuses, de la soie, du brocart, du velours. Donc c'était un petit peu pour moi du déjà-vu. Et je souhaitais faire découvrir au public ce monde des paysannes et des bédouines qui est beaucoup moins connu, sachant que ces femmes dans ces régions ont taillé leurs costumes dans des étoffes beaucoup moins nobles, dans du coton et du lin pour la plupart. Donc, une fois ma décision prise, je me suis rendu compte petit à petit en travaillant sur les collections que nous avions quand même de nombreuses lacunes. Beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi j'ai décidé de présenter uniquement les costumes de cette région, ce que j'appelle moi le croissant fertile, pourquoi pas les costumes du Yémen, d'Irak ou d'Afrique du Nord. Pour l'Afrique du Nord, quelque part, étant responsable d'une vaste région, j'essaye un petit peu d'équilibrer. Il y a 4 ans, au Quai Branly, une exposition a été consacrée aux poteries des femmes kabyles, des femmes berbères. Donc pour moi, il fallait quelque part mettre en avant l'Orient. Pourquoi pas le Yémen ? Pourquoi pas l'Irak ? Parce que ce Proche-Orient se caractérise par des costumes tout à fait typiques. Vous avez tous vu pour la plupart l'exposition. Oui. Vous avez dû constater cette permanence dans les formes. On a ces robes amples, ces manches ailées, pagodes. La coupe, le style, les broderies, les couleurs, il y a une unité qu'on ne retrouve pas dans les autres zones. D'ailleurs, je me suis arrêtée uniquement au costume des bédouines du Sinaï parce que, quelque part, ces bédouines se sont fortement inspirées des costumes de leurs voisines paysannes palestiniennes pour décorer leur robe. Si on se promène un petit peu en Égypte, les costumes des femmes paysannes et des autres oasis d'Égypte, de la campagne, ne sont pas du tout similaires. Plus on s'éloigne, plus on s'approche de l'Afrique, si vous voulez, et plus les coupes sont proches des costumes africains. Donc, il y avait une unité niveau forme, niveau décor, d'où la raison de uniquement consacrer ces costumes à cette zone géographique. Donc, pour pouvoir enrichir cette collection, j'ai commencé à voyager. Premier départ, je suis allée en Syrie pour essayer donc de rencontrer des personnes, discuter avec eux. Et les premières visites que j'ai faites, c'était au musée des arts et traditions populaires de Damas. Ce palais Hazem à Damas, qui était un palais ottoman construit au XVIIIe siècle. Et donc, dans ce palais, il y a un petit musée. Voilà, une architecture absolument formidable de l'extérieur, typiquement ottomane. Et dans ce musée, donc, il y a des salles où des costumes féminins sont présentés, mais évidemment d'une façon qui, pour moi, est aujourd'hui très ancienne et que je ne peux pas du tout me permettre de faire au musée du Quai Branly. Donc voilà un petit peu comment, dans ce musée, on découvre les costumes des femmes syriennes. Une autre photo, donc dans une vitrine, on a ces costumes qui sont quand même présentés d'une façon assez, assez élégante. Et j'ai eu la chance de rencontrer la responsable de ce musée qui m'a ouvert les portes de leurs réserves, qui sont en plein travaux aujourd'hui. Donc évidemment, j'ai découvert des robes absolument superbes, mais j'avais un petit problème, et ça c'est les petits secrets du musée. Sur ces mezzanines, nous avons un certain budget pour faire les expositions, et je ne pouvais pas multiplier les prêts. Donc le choix était difficile pour moi, petit à petit que je décide d'où j'allais faire venir les costumes, non collection dans un premier temps, et puis savoir où j'allais chercher les autres collections. Donc la Syrie, je suis allée un petit peu au nord, au nord de Damas, la ville de Hama, où il y a également un musée des arts et traditions populaires qui porte le même nom que celui de Damas, et l'architecture est tout à fait similaire. Et là aussi, j'ai visité ce musée. On voit présenter des scènes tout à fait traditionnelles, classiques, comme on le faisait comme on continue à le faire dans ces pays. On a des mannequins qui un petit peu représentent la vie quotidienne habillés de costumes traditionnels. Donc pour moi, c'était pour moi un véritable enrichissement, tous ces contacts, sachant que je connaissais, parce que je suis d'origine libanaise et que je connais quand même un petit peu ces pays, mais bon, ça m'a permis de reprendre contact avec tous ces gens-là. J'ai eu la chance de rencontrer une des dernières personnes. Vous avez dû voir dans l'exposition ces grandes robes qui sont présentées dans la partie consacrée aux femmes syriennes. Ces robes qui sont décorées avec la technique du noué. Donc j'ai rencontré une des dernières femmes. C'est non loin de Hama, proche de la frontière libanaise, donc au nord-ouest de la Syrie. Cette dame qui continue à travailler cette technique qui consiste en fait à nouer le tissu. On fait des petits nœuds sur l'étoffe qu'on va tremper dans un deuxième temps dans un colorant. Avant, on utilisait les teintures végétales, la garance, l'indigo. Aujourd'hui, on s'est rabattu sur les teintures synthétiques, malheureusement. Et donc, voilà un petit peu le type de robe qu'elle continue à faire. Mais évidemment, c'est une des dernières. Il y avait, il y a quelques années encore, une trentaine d'artisanes qui travaillaient, qui utilisaient cette technique. Aujourd'hui, c'est une des dernières femmes. Sachant qu'en Syrie, il y a toujours des femmes qui brodent au point de croix, qui continuent à, comme je le dis dans mon exposition, à perpétuer cet art. Mais évidemment, ça disparaît petit à petit. On m'a dit sur place que la femme du président syrien œuvre énormément dans ce sens. Elle essaye de sauver tout ce patrimoine, tout cet artisanat, parce que évidemment, la Syrie est réputée pour ses textiles. On continue à créer des textiles du brocart à Alep. J'ai eu aussi la chance de visiter un atelier de sérigraphie à Alep, dans un ancien caravansérail. Et voilà les fabuleuses étoffes qu'ils continuent à réaliser. Ces voiles de tête étaient portées essentiellement par les bédouines. Donc, on utilisait aussi bien la sérigraphie que la technique du tamponnage. Donc, tout cet artisanat est aujourd'hui, ces souffles quelque part. Il y a une volonté donc de l'État de continuer à encourager ces artisans. Mais bon, jusqu'à quand déjà, tous ces artisans ont énormément souffert au début du XXe siècle avec l'arrivée des tissus d'Europe. Aujourd'hui, ça vient d'Asie. Donc, quelque part, il y a une forte concurrence. Et voilà, ça s'essouffle petit à petit. Mon second voyage m'a amené en Égypte. En Égypte, parce que dans nos collections, nous n'avions carrément aucun costume de bédouine. Donc là-bas, on m'a vivement conseillé de rencontrer une personne qui est absolument extraordinaire. Son nom, c'est Shahira Mehrez, et vous allez la voir sur une des photos. Elle est là, au milieu de ces jeunes filles. Madame Mehrez habite au Caire. Elle habite dans un appartement, dans deux appartements absolument superbes qui ont été, décorés de l'intérieur par l'architecte égyptien Hassan Fahmi. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît de nom. Donc sa maison est fabuleuse et c'est une personne qui a un caractère absolument terrible et qui a une énergie, elle est débordante d'énergie. Donc elle travaille depuis 40 ans, toujours. Elle cherche à sauver ce patrimoine vestimentaire égyptien. Elle organise régulièrement des défilés au Caire, et l'argent qu'elle récolte de ces défilés, elle le consacre, donc elle l'utilise pour payer des artisanes dans le Sinaï. Elle a un atelier dans la ville d'Al-Arish, qui est donc au bord de la Méditerranée, et là elle fait travailler encore des bédouines, et tous les produits dérivés qu'elle réalise, ces femmes, elle les commercialise dans sa boutique au Caire, qui est absolument superbe. Elle crée elle-même des habits, et là on voit des enfants qu'elle a habillés à la mode, dans le style des femmes de Siwa. Siwa est une oasis qui n'est pas loin de la Libye et qui est habitée par par des berbères, contrairement au reste de la population égyptienne. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Madame Mehrez. Voilà l'intérieur de sa boutique où elle a énormément de costumes, d'étoffes. Et c'est grâce à elle donc que le musée du Quai Branly. Donc voilà un petit peu l'intérieur, les salles intérieures de son magasin où elle a une collection absolument fabuleuse de costumes. Je ne sais pas d'ailleurs ce que cette collection va devenir dans le futur. Elle a un gros problème qu'ont beaucoup de collectionneurs, pas d'héritier. Elle a peur de laisser sa collection en Égypte parce que les moyens de conservation ne sont pas vraiment parfait. Donc, bon, nous gardons contact avec elle. Et donc, c'est grâce à Madame Mehrez que nous avons acheté une série de voiles de visage que vous avez dû voir dans l'exposition et de coiffes qui étaient portées par les femmes bédouines. Voilà, ce voile de visage. Donc, je fais une petite parenthèse sur le voile de visage, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, le fameux burqa, etc., je vais vous faire un historique du voile de visage, pas du voile de tête, parce que c'est encore une autre histoire, sachant que ces deux éléments vestimentaires sont millénaires et que l'islam n'a pas du tout inventé ni imposé ces tenues. Le voile de visage, j'aime bien l'appeler parure, ce voile, parce qu'il est beau. Ce n'est pas uniquement une simple étoffe noire que la femme mettait sur leur visage et elle l'embellissait. Elle l'agrémentait avec tous les éléments de sa dot. En fait, c'est un petit peu toute leur dot que portent ces femmes quand elles se déplacent. Ces voiles, les bédouines du Sinaï, mais aussi les bédouines du Negev et d'Arabie, ont porté depuis toujours, d'après les textes que nous avons, des voiles de visage. C'est uniquement les femmes mariées, les jeunes filles ne portaient pas ces voiles. Il fallait bien la marier, la jeune fille bédouine, donc quelque part, si les hommes ne la voyaient pas. Une fois mariée, elle se couvrait, sachant que cet élément servait à protéger aussi bien les voies respiratoires que la bouche des vents de sable, du soleil. Donc, si vous voulez que je retrace un petit peu l'histoire du voile de visage, nous ne savons pas quand la femme a porté pour la première fois au Proche-Orient un voile de visage. Ce qui est certain, on commence à voir sur des petites figurines grecques datant du 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, des petites figurines qui montrent des femmes faisant un pas de danse et recouvrant leur visage avec leur voile. On ne voit que les yeux. Mais là, ce qui est certain, c'est qu'elles sont en train d'effectuer un rituel. Ça n'a absolument rien à voir avec une tradition vestimentaire. Elles ont quand même un voile qui couvre les cheveux, qui est aussi une tradition millénaire dans cette région, mais le voile de visage est certainement lié à un mouvement, à un rituel. Petit à petit, dans la Bible, on mentionne le voile, mais beaucoup plus comme une parure, quand dans le Cantique des Cantiques, on mentionne justement le port du voile, c'est beaucoup plus pour mettre en avant la beauté, les yeux de la bien-aimée. Tertullien, prêtre de Carthage, donc on est bien avant la naissance de l'islam, pour encourager les femmes, les chrétiennes de Carthage à se voiler les cheveux déjà, adolescentes et femmes mariées, il leur donne un exemple, les femmes d'Arabie, qui leur dit-il, se couvrent non seulement les cheveux, mais aussi le visage, ne laissant apparaître qu'un œil, préférant voir qu'être vu. Donc quelque part, nous sommes avant, l'islam n'est pas encore né, et quelque part, ces femmes d'Arabie se couvraient pour des raisons diverses, le visage, pudeur, pour des raisons climatiques. Donc nous savons que ces femmes se couvraient le visage. Quand on avance un peu plus dans le temps, le premier dictionnaire écrit par un lexicographe, c'est comme ça qu'on dit, arabe, le premier qui mentionne le mot voile, je vais prononcer comme on dit en arabe, le burqa. C'est un auteur du Xe siècle qui précise que les bédouines arabes se couvrent le visage donc de ce voile, mais qu'il était coloré. Et quand on regarde un petit peu la poésie anti-islamique, c'est beaucoup plus, on décrit les femmes voilées, on parle de leur coquetterie, on souligne leurs yeux qui sont noircis avec le phare, le kahal. Et donc, c'est beaucoup plus un élément de coquetterie que portent les femmes qu'un élément comme on peut le voir aujourd'hui. On continue à avancer dans le temps. À partir du XIIIe siècle, on voit apparaître un peu partout des miniatures persanes, qui nous permettent de voir des femmes portant des petits voiles transparents. Et ce voile s'installe petit à petit dans les villes. Ce voile qui était, on peut dire, réservé aux bédouines va petit à petit faire son entrée dans les villes. Dans le monde, dans ces villes qui sont de plus, donc comment dire, où l'islam commence un petit peu à dominer, où les hommes de loi commencent un petit peu à faire un petit peu la règle. Ce voile commence un petit peu à être imposé aux femmes dans les villes, mais pas du tout à la campagne, ni les bédouines le portent parce que c'est un élément qui fait partie d'un passé militaire. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, les femmes dans les villes musulmanes vont se voiler le visage. Et petit à petit, même pire, on va les cloîtrer. Elles n'auront plus le droit de sortir. Elles sortiront quand même. On les trouvera dans les rues. Toutes ces lois qui sont imposées ne les empêcheront pas de sortir dans les rues. Sachant qu'à partir du 19e siècle, ce voile qui était réservé aux femmes libres mariées, donc on distinguait les musulmanes des non-musulmanes, au 19e siècle, il y a des voyageurs français, dont le comte de Chabrol, qui était à Alexandrie, et qui décrit des femmes coptes et musulmanes, qui décrit leur voile de visage. Donc, au 19e siècle, même les femmes chrétiennes cachent leur visage. On avance dans le temps, début du XXe siècle, il y a un petit éveil donc, qui se passe dans cette région, des mouvements féministes qui commencent à naître, et les femmes musulmanes des villes vont faire un geste, elles vont rejeter ce voile, vont réclamer des droits tout comme les hommes, des droits pour pouvoir aller dans les écoles, etc., et bénéficier des mêmes droits que les hommes. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce voile. Aujourd'hui, il y a un retour. Et je vous avoue que pour les femmes, moi, je suis moi-même donc d'origine libanaise, comme je l'ai dit. J'ai une mère qui, dernièrement, j'aime bien raconter cette anecdote parce que je pense que c'est très important. Elle a 90 ans et je vais régulièrement la voir au Liban. Et il y a des moments de complicité. Elle me raconte des choses qu'elle ne m'avait jamais racontées quand j'étais jeune fille. Et un jour, on était en train de se promener dans les quartiers de Beyrouth, et puis, évidemment, on se côtoie des filles qui sont à moitié nues, super bronzée à côté des filles voilées de la tête aux pieds. Et la réaction de ma mère est toujours terrible face à ces femmes voilées de la tête aux pieds, parce qu'elle me dit, regarde-les comment elles se voilent. Et il y a un jour, elle s'est carrément approchée d'une femme en disant, mais enfin, le Coran ne t'a jamais imposé ce type de tenue, etc. Et je suis montée en disant, maman, ça va, t'as pas besoin de... Elle me dit, oui, mais... Et là, c'est là qu'elle me raconte qu'à l'âge de 10 ans, évidemment, elle devient pubère, et que donc, quelque part, déjà, c'est un choc pour elle, elle est traumatisée. Et la deuxième chose, c'est que sa grand-mère lui dit, dorénavant, maintenant, tu vas devoir cacher ton visage quand tu vas sortir, comme toutes les femmes de classe de haute société. Ce n'était pas une obligation, mais c'était les femmes de haute société qui devaient se cacher le visage. Donc, elle s'est mise à pleurer, malheureuse comme tout, et il a fallu l'intervention de sa tante, qui habitait dans la même maison, et donc pour lui dire, je vais te faire une petite voilette, un système. Tu mets la voilette devant ta grand-mère et avant de sortir, et une fois dehors, tu pourras l'enlever. Et donc, quand ma mère m'a raconté cette histoire, et qu'aujourd'hui, on voit ces femmes qui reviennent vers le voile, donc je me dis, quelque part, elles connaissent peut-être mal l'histoire de ce voile. Elles ne se rendent pas compte que, grâce à ces femmes, comme ma mère et comme tant d'autres femmes qui ont réussi à sortir, à aller dans les écoles, les universités, à se former, que c'est grâce à des femmes comme ça qu'aujourd'hui, elles peuvent sortir voilées, c'est leur choix, c'est vrai, mais qu'elles seraient encore enfermées dans la maison si elles n'avaient pas eu justement cette génération de femmes qui se sont émancipées. Donc ça, c'est... sachant que le but de l'exposition ici n'était pas du tout de raconter cette histoire du voile, j'en parle un petit peu dans le catalogue, dans mon article, je retrace l'histoire de la femme très rapidement. Sachant que ce n'est pas propre à l'islam, dans toutes les civilisations, il y a eu des lois somptuaires qui ont réglementé la tenue vestimentaire. Depuis que l'homme a inventé le vêtement, il n'a pas arrêté de se dire, ok, dans quelle mesure je vais me déshabiller et jusqu'où je vais me déshabiller. On a empêché les femmes de montrer leurs chevilles, leurs pieds, selon les civilisations et les sociétés. Dans cette région du bassin méditerranéen, il y a une fixation qui est faite plus sur les cheveux. Et très tôt, l'homme a décidé, en moins 1100, on a la première tablette cunéiforme, c'est une loi d'un roi assyrien qui impose, qui demande, qui n'impose pas, parce qu'il n'y a aucune décision si jamais la femme ne le fait pas, mais toute femme mariée, libre, devait sortir dans la rue en cachant ses cheveux. La prostituée n'avait pas le droit de se casser les cheveux. Sachant que la prostituée, on pouvait la punir si elle utilisait le voile, mais la femme mariée, il n'y avait pas de punition. Donc, quelque part, c'est les hommes qui ont décidé, nulle part, on ne le voit, la femme, au cours des siècles, n'a décidé de comment elle allait faire pour se protéger du regard masculin ou de ce qu'elle devait montrer ou ne pas montrer dans la rue. Donc, voilà. Après ce petit... Voilà. Donc, c'est grâce à Madame Mehriz en Égypte que je suis allée dans le Sinaï, où j'ai rencontré une bédouine. Ces gens habitent, sont de plus en plus sédentarisés. Ils vivent dans des maisons en dur à côté, et puis à côté, ils ont leur sorte de hutte. Et évidemment, cette femme est une des dernières. On trouve encore des bédouines dans le Sinaï, mais c'est les plus vieilles qui continuent à mettre leur voile de visage, sachant que les jeunes, évidemment, elles adoptent soit la tenue sobre, austère, soit à la tenue occidentale. Donc, et à partir de là, on voit cette ère vestimentaire qui est en train de disparaître petit à petit. Voilà, donc cette bédouine qui est en train de me montrer un petit peu comment elle continue à broder. Donc, cette exposition m'a aussi emmenée à partir en Jordanie. Pareil, parce que dans nos collections, nous avions pas mal de lacunes, très peu de costumes jordaniens. Et là aussi, j'ai eu la chance terrible de rencontrer une femme pareille, extraordinaire. Ce sont toutes des femmes qui se battent pour cet art textile. Voilà une photo de Amman. Je vous fais un petit peu visiter la région, l'architecture des maisons, architecture en pierre avec les arcades. Et donc voilà Madame Kawar, donc Widad Kawar, dont vous avez dû voir certains des costumes qui sont présentés dans l'exposition. Madame Kawar est d'origine palestinienne, elle vit actuellement depuis pas mal de temps à Amman, et elle collectionne depuis 40 ans. Et elle a elles se connaissent avec Madame Mehriz, je pense que une fois qu'on a rencontré une personne, c'est un milieu assez... assez restreint. Et donc, Madame Kawar a commencé à collectionner il y a 40 ans et elle continue. Et là aussi, je voulais vous dire, donc, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet d'exposition, pour moi, c'était montrer un art vestimentaire. Et petit à petit, Ces petits événements, l'histoire de ma mère. Quand j'étais chez Madame Kawar, il y a un jour, en train de travailler sur la sélection de costumes, on vient la chercher, il y a une dame qui s'était présentée chez elle. Et donc, elle s'absente et elle revient avec une robe superbe. Et là, elle me raconte que c'est une femme qui est venue la voir, une femme d'un certain âge, pour lui vendre sa robe brodée, parce que quelque part, on lui avait dit qu'il ne fallait pas, il ne fallait plus mettre de robe colorée, etc. Et elle a eu beau la convaincre que franchement, c'était son patrimoine, c'était sa fierté, cette robe. Elle est partie en la laissant. Donc, voilà, petit à petit, pour moi, cette exposition ne devait pas être uniquement une simple exposition de costumes. Elle devait transmettre des messages forts. Et donc, voilà, c'était déjà mon idée. Il fallait que le public, en voyant ces costumes, change déjà d'idée et une autre, voilà, une autre image de la femme orientale. Sachant que Madame Kawar est musulmane d'origine, mariée à un chrétien, donc une ouverture d'esprit, tout comme moi d'ailleurs, une ouverture d'esprit totale. Voilà un petit peu une des salles de ces, parce qu'elle habite donc dans une très belle villa à Amman, et tout le rez-de-jardin de sa villa est consacré à sa collection. Donc il y a une richesse de costumes, de parures, et les gens continuent à venir lui apporter des objets pour acheter, et elle est en train de construire, non loin de sa villa, elle a acheté une villa, et elle souhaite la transformer en musée. Donc malheureusement, elle n'a pas vraiment les moyens, elle se fait aider par des associations, les Américains, les Japonais. Je suis en train de tout faire aujourd'hui pour le musée du Quai Branly, l'aide pour la création de ce musée. Elle souhaite vraiment faire connaître aux jeunes enfants qui vont probablement, en grandissant, voilà, qui vont ignorer plus tard ce patrimoine. Donc voilà. Là, je vous montre quelques-unes des. Voilà, c'était dans son jardin, le jour où j'ai pris en photo cette fameuse robe de 3 mètres qui est présentée dans l'exposition. Elle est lourde, nous étions deux à la porter. Il y avait une personne qui m'aidait sur place pour faire toutes les photos. Donc, je trouve, c'est pour vous montrer un petit peu la taille de la robe. Et puis voilà, la robe de Bédouine qui est présentée sur le mannequin dans l'exposition. Et enfin, une des très très belles robes de la région de Jérusalem, qui est aussi mise à plat, de Bethléem, pardon, mise à plat dans l'exposition. Alors, sinon, le dernier voyage que j'ai fait, c'est au Liban. Donc, quelque part, cette exposition, je savais très bien quel message je souhaitais faire passer à travers cette exposition. Mais quelque part, je voulais donc lui donner, j'ai souhaité lui donner aussi petit à petit deux dimensions, une dimension artistique. Donc, je souhaitais travailler avec un créateur contemporain. Je ne savais pas très bien si c'était un couturier, un photographe, mais je voulais quelqu'un qui puisse porter un regard sur cette collection, qui lui donne un souffle. Je ne souhaitais pas que cette exposition soit une simple exposition ethnographique. Mais je voulais que cette personne lui donne un souffle, la fasse revivre ses costumes. Je suis allée voir un collègue à moi qui est aujourd'hui directeur du musée Galliera, Olivier Saillard. Et donc, avec mon classeur, mon projet, j'ai dit, voilà, je souhaite faire cette exposition. À ton avis, avec qui je peux travailler? Et donc, sa réponse a été très rapide. Il m'a dit, il y a une personne avec qui il faut que tu travailles, c'est Christian Lacroix. Sachant que Christian Lacroix Il a voulu, quand il était jeune, être conservateur. Donc, quelque part, il a comment dire, une façon de travailler dans les musées qui est exceptionnelle. Lui-même a travaillé avec lui. Et donc, à partir de là, c'est parti. Les premiers contacts ont été faits avec Christian Lacroix. Je l'ai su quelques mois plus tard qu'il avait donné son accord, qu'il approuvait ce projet. Et pour moi, c'était absolument formidable. C'est tout à fait la personne qu'il me fallait, une personne qui est méditerranéenne déjà, qui apprécie les arts traditionnels, les broderies. Et donc, voilà, mon aventure pouvait commencer. La deuxième dimension que je souhaitais donner à cette exposition, c'était une dimension historique. Parce que là aussi, je ne voulais pas que les visiteurs viennent voir ces costumes et puis sortent en disant, très bien, c'est un art qui est peut-être né à la fin du 19e, et puis c'est tout. Je voulais expliquer au public que l'art de la broderie est un art millénaire. Il y a une chose, c'est peut-être ma déformation, mes études, j'ai fait histoire de l'art et archéologie, mais il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas comprendre le Proche-Orient à tous les niveaux, histoire, religion, art, etc., si on n'a pas compris son passé. Et pour l'art de la broderie, il faut comprendre, il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre justement cette importance de la broderie. L'Orient est le berceau de la broderie. Tous les chercheurs sont d'accord. Et les dernières découvertes faites au Proche-Orient, en Mésopotamie, mais surtout en Syrie dernièrement, n'ont fait que confirmer cette hypothèse. On a découvert en Syrie sur un site du néolithique, parce que pour moi c'était on a trouvé des textiles à Palmyre, on a trouvé des momies égyptiennes, enfin avec des tuniques brodées, on est en moins mille et quelques. Mais des collègues archéologues m'ont confirmé qu'ils ont retrouvé sur un site donc du néolithique Tel Aswad en Syrie une empreinte qui a brûlé accidentellement d'un textile qui aurait été fort probablement rehaussé d'un fil. Qui traduit une intention de broder. Et donc, quelque part, on est en moins 7000. Moins 7000, l'homme a déjà eu l'idée de rehausser d'un fil une étoffe. Et petit à petit, quand on regarde un petit peu les peintures murales du palais de Marie en Syrie, même des peintures des palais assyriens, nous sommes en moins 2000. On voit déjà des costumes colorés, à l'indigo sans doute et à la garance d'après les textes qu'on a retrouvés avec des pompons. Donc quelque part cet art vestimentaire est très ancien et puis il y a même des éléments du costume proche-oriental qu'on voit, toute cette coupe en T, ces pantalons bouffants, c'est des éléments, surtout le pantalon bouffant est arrivé avec les populations perses et on continue à le porter aujourd'hui. Donc tout ça c'est très important et je souhaitais que ce public essaie un petit peu, donc comprenne tous ces détails. Donc je suis partie au Liban, je savais que dans les années 90, des spéléologues ont trouvé dans une grotte au nord du Liban, c'est dans la vallée de la Qadisha, qui veut dire la vallée sainte, ils ont découvert une grotte, là voilà, à gauche, dans laquelle ils ont trouvé les momies de femmes et de fillettes, naturellement momifiées, en parfait état de conservation. Et donc les éléments archéologiques qui étaient autour de ces momies, les tessons de céramique, les manuscrits, leur ont permis de dater cette découverte au XIIIe siècle, 1293 plus exactement. Et donc faisant des recherches, ils ont très vite compris ce qui s'était passé. Un patriarche, donc nous sommes à la fin de l'époque des croisés, les Mamelouks sont là, et donc un patriarche donc maronite de la région qui était dissident, dérangé aussi bien les croisés que les Mamelouks, d'un commun accord, alors qu'en général ils ne s'entendaient pas très bien, ils ont décidé de l'arrêter. Ce sont les armées du sultan Mamelouk qui l'ont encerclé dans cette grotte. Il s'était réfugié là avec quelques personnes de son village, et sans doute les femmes et les fillettes qui étaient avec lui sont décédées à ce moment-là. Le siège aura duré plus d'un mois et finalement il s'est soldé par l'arrestation de ce patriarche et des villageois qui ont survécu. Et l'intérêt de cette découverte, en fait, on a retrouvé donc, on voit les chercheurs libanais ont réussi à dessiner cette petite photo qui est en bas. Toutes les femmes et les fillettes étaient vêtues de robes écrues qui ont cette coupe en T, et tout le plastron est brodé avec des fils de soie teints à la garance et à l'indigo. C'est une découverte extraordinaire parce qu'on n'a jamais trouvé au Proche-Orient des costumes dans un aussi parfait état. Donc, et pour moi, c'était très important de montrer que déjà, nous sommes au XIIIe siècle, les femmes brodaient leurs habits pour les embellir. Ce sont des paysannes, ce ne sont pas des femmes de la ville. Donc en fait, cet art de la broderie, qui était pendant des siècles un art précieux, un art noble, réservé aux rois, aux dignitaires, petit à petit, on le voit dès le XIe siècle, avec l'arrivée des populations turques, probablement les Seldjoukides, puis après les Mamelouks et les Ottomans, l'art de la broderie va se populariser, la preuve, cette découverte de la robe. Et c'est surtout au XVIe siècle, avec les Ottomans, que l'art de la broderie va quitter le palais pour aller rejoindre les foyers et devenir l'apanage des femmes. Et à partir de là, les femmes vont broder sur tout, sur les coussins, sur leurs voiles de tête, sur les voiles de hammam. Et donc, et ces femmes ont continué à broder il y a encore une cinquantaine d'années. Donc, voilà. L'histoire de cette, Voilà la robe de la fillette qui est dans l'exposition. Et donc pour moi, c'était très important que cette robe soit dans l'exposition pour montrer cette profondeur historique, cette ancienneté. Tous ces momies et ces costumes sont aujourd'hui conservés au Musée national de Beyrouth. Voilà le musée national. Donc, très vite, à partir de là, je savais très bien que j'allais emprunter des costumes, pas de la Syrie, parce que nous en avions déjà et que je ne pouvais pas me permettre de multiplier les prêteurs. Donc, nous avons fait appel à Madame Kawar pour le prêt et puis au musée de Beyrouth pour le prêt de la robe de fillette. Et très vite, j'ai commencé à travailler avec Christian Lacroix, qui est venu la première fois au Quai Branly. Il est allé sur la mezzanine pour visiter avec le président Stéphane Martin. Et là, sa première remarque a été, c'est un espace qui est très difficile. Le plafond est bas, il est assez sombre. Et donc, sa première question a été, est-ce que je peux peindre en souriant? Et donc, j'ai eu ma première réunion avec lui. Donc, nous avons regardé ensemble les costumes. Et là, j'étais agréablement surprise parce qu'il connaissait un petit peu. Je lui ai raconté un peu l'art vestimentaire du Proche-Orient. Il savait. Le passage à l'école du Louvre a fait le nécessaire. Et donc, voilà, ici, nous sommes dans les réserves du musée du Quai Branly et Christian Lacroix est venu. Donc, on lui a présenté tous les costumes de notre collection et j'ai commencé à travailler avec lui, sachant que je devais faire la sélection définitive de ces costumes. Et nous l'avons fait ensemble, c'est surtout lui. Je l'ai laissé. J'avais beaucoup de mal à supprimer certains des costumes. Pour moi, tout était beau, c'était merveilleux, mais il fallait enlever 50 costumes. Donc, et c'est lui, avec ses gants, qui a fait le tour et qui a choisi les heureux élus, tout en me demandant toujours si j'étais d'accord, si jamais... il a été d'une grande délicatesse, d'une grande finesse. C'était vraiment un travail exceptionnel avec lui. Le voilà encore devant les voiles du visage qui sont dans les boîtes, sachant que c'est dans ces espaces, si vous voyez un petit peu, si vous feuilletez tout à l'heure le catalogue, c'est dans les réserves qu'une partie des photos du catalogue ont été faites. On voit la couleur rouge des murs. Et à partir de là, Christian Lacroix, quelques mois plus tard, il nous a envoyé les premières esquisses, comment il imaginait cet espace, la présentation, la mise en scène. Donc, première esquisse, pour attirer le public, il a donc déjà imaginé ces néons qu'on retrouve dans l'exposition. Il a imaginé donc les robes qui volent, parce que très rapidement, il a voulu présenter ces robes comme des tableaux. Les coupes, sinon on n'aurait pas pu voir la beauté des coupes, des formes. Nous étions tout à fait d'accord, et donc il avait envie de les présenter donc suspendues, volant, toutes légères. Il a donc déjà réfléchi aussi à cette idée d'entourer la mezzanine d'un voile coloré. Je continue à avancer, donc voilà certaines de ses esquisses, sachant que Christian Lacroix, il dessine très bien. J'ai découvert son art du dessin, comme il écrit très très bien. Son article dans le catalogue est absolument super. Donc voilà quelques-unes de ses esquisses qu'il nous a envoyées. Donc, on savait déjà qu'il voulait habiller le sol d'une moquette, qu'il voulait entourer cette mezzanine. Donc, aujourd'hui, les couleurs ont un peu changé, qu'il voulait ponctuer l'espace avec ses agrandissements photos. Donc, voilà, exactement. Et je trouve, quelque part, il était très heureux, quand il a vu la fin de l'installation, de voir que la réalisation de la scénographie était très proche de ce qu'il avait souhaité faire pour l'exposition. Donc là aussi, j'ai en discutant donc du contenu, j'ai tout de suite donc souhaité. J'avais fait une sélection de parures, d'accessoires de ces femmes, sachant que toutes les robes que vous avez vues sur la mezzanine sont des robes de fête, des robes de mariage que les femmes ont brodées pour leur mariage. Donc très très tôt, la fille apprenait l'art de la broderie avec sa mère, sa grand-mère. Elle commençait à préparer son trousseau et elle brodait tout jusqu'au mouchoir de son fiancé pour que le jour du mariage, il puisse en dansant justement l'utiliser. Donc je ne voulais pas que ces petits objets soient dispatchés sur la mezzanine. Je voulais qu'ils soient mis dans un endroit propre à eux. Et donc d'où l'idée avec Christian Lacroix de faire des coffres de mariage que vous trouvez dans l'exposition. Et voilà quelques-unes des propositions de Christian Lacroix pour les coffres. Il nous a dessiné plein de projets. Je ne vous ai pas tout montré, mais c'était absolument formidable. Et dans ces coffres, vous n'avez pas dû le voir, ce que j'ai souhaité faire aussi, c'était, on m'a fait des compartiments dans ces coffres, à l'arrière de chacun d'eux, dans lesquels nous avons mis des objets que les conférencières pourront sortir pour montrer au public. Parce que je trouve toujours que c'est dommage quand les gens viennent, ils peuvent juste regarder mais pas toucher et avoir des explications directes sur des objets. Or là, on va pouvoir le faire. Donc ces coffres, on va traiter de 4 thèmes. Je brode, j'ai acheté lors de mes missions pas mal de broderies, des éléments de manches brodées, des bas de pantalon brodés, des sacs, des étuis de cosmétiques brodés. J'ai acheté des coiffes, des amulettes, etc. Et donc tous ces petits objets vont être mis dans les coffres. Et on a déjà commencé, j'ai vu vendredi matin une conférencière avec des enfants. Elle s'est assise par terre, elle commençait à déballer. Et pour eux, ils étaient ravis. C'était comme un trésor qu'on était en train de sortir. Donc quelque part, voilà, c'était rendre un petit peu cet espace aussi animé, ne pas le réserver uniquement au public, aux adultes. Donc voici la première maquette qui a été faite à partir des esquisses de Christian Lacroix, sachant que je travaillais également avec un architecte qui, lui, devait réaliser, concrétiser les idées de Christian Lacroix. Donc première maquette qui a été faite, on voit déjà la moquette qui est sur le sol. On voit déjà les podiums qui ponctuent l'espace, sachant que ces podiums, ils permettent surtout aussi, c'est une sorte de mise à distance. On avait aussi peur parce que très vite, on a décidé qu'on ne souhaitait pas mettre ces costumes dans les vitrines avec les reflets, etc. Et je pense quelque part, ça tue quelque part un objet. Et pour moi, ces costumes ne sont plus portés. Je ne souhaitais pas les tuer une deuxième fois. Donc, il fallait qu'ils flottent et que les gens puissent vraiment admirer les couleurs. Donc, on voit déjà ce parcours qui se dessine, les coffres qui ponctuent cet espace. Et très rapidement aussi, dans cette petite pièce qui est à la fin de la mezzanine, Christian Lacroix a imaginé un espace où le public peut se poser, s'asseoir. Donc la banquette que vous avez dû voir sur la mezzanine, c'est lui qui nous la prête. Et là, c'est dans cette boîte qu'on a décidé de mettre les poupées des collections du musée du Quai Branly, les aquarelles qui sont accrochées sur le mur. Et là, j'ai souhaité aussi permettre au public, aux non-voyants, de pouvoir découvrir cet espace, donc de pouvoir caresser des tissus. On a commandé, justement, grâce à Madame Kawar, en Jordanie, à des femmes jordaniennes qui nous ont brodé ces robes que vous avez dû découvrir dans la salle, mais aussi des échantillons de broderie qui vont permettre aux non-voyants de pouvoir savoir où se trouvent les broderies, les différents types de broderies utilisées. Mais c'était aussi pour le public, tout public pouvait toucher ces costumes. Et nous avons décidé de mettre ce petit cartel qui a beaucoup amusé les gens, prière de toucher. Les gens, en général, on leur dit toujours prière de ne pas toucher. Et là, pour la première fois, et j'avoue que le jour de l'inauguration, les gens étaient ravis de tourner, retourner, toucher. C'est quand même important de s'approcher, de regarder les points. Donc voilà, ce sont des idées qu'on a travaillées ensemble avec Christian Lacroix qui s'est beaucoup impliqué dans ce projet, qui ne s'est pas contenté d'être uniquement le directeur artistique, mais il s'est beaucoup intéressé aux femmes qui étaient derrière. Il était très touché quand il voyait une reprise sur un vêtement. Il me posait plein de questions à savoir comment elles vivaient, ce qu'elles faisaient, leurs traditions. Donc voilà, on a une des photos de Christian Lacroix qui regarde une des premières maquettes qui était présentée. On a déjà un coffre qu'il avait dessiné. Christian Lacroix, à nouveau, dans un autre atelier, avec ses gants, justement. On lui présente là les premières photos du catalogue, parce que là aussi, Christian Lacroix a travaillé. Il est directeur artistique du catalogue. Donc petit à petit, il s'est engagé non seulement dans la scénographie, mais aussi dans le catalogue. Et justement, pour cette exposition, il a réalisé, contrairement aux habitudes du musée du Quai Branly, parce que nous faisons toujours appel à une agence qui fait les affiches, pour cette exposition, il nous a fait des propositions de 9 projets d'affiches, les unes plus belles que les autres. Nous avions l'embarras du choix. Et finalement, c'est celle-ci qui a été retenue. Et le jour où on nous a présenté ces projets, j'étais très touchée parce que, sur les manches c'est la manche gauche de la robe, et il mentionnait mon nom. c'était très agréable de sa part, sachant que jamais sur une affiche, on ne met le nom du commissaire. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'était très important. Et à partir de là, c'est cette même affiche qui a été utilisée pour le catalogue de l'exposition. Sachant que là aussi, je souhaitais qu'il y ait une unité. Je ne voulais pas... cette robe est formidable parce que l'exposition concerne 4 régions géographiques. Je ne souhaitais pas qu'il y ait le costume d'une femme d'une région donnée sur ce costume, sur l'affiche. Je ne souhaitais pas non plus qu'il y ait un détail parce que ce n'était pas du tout un... Sinon, ça ferait plus modes et travaux. Et donc, je trouve que cette affiche, il a tout à fait compris la coupe, ce côté géométrique des robes. Et personnellement, je la trouve très, très belle. Donc, à partir de là, une fois que le catalogue était mis sur les rails, que le projet avançait, là, je vais vous résumer en quelques minutes l'installation de cette exposition, parce que là aussi, c'était une véritable aventure. Donc voilà, il y a près de 3 semaines, on a commencé à installer les espaces. Donc on a commencé à poser ces premières lampes et ces néons. Et je vous avoue que petit à petit, quand on voyait les choses commencer à se mettre en place et que les choses ressemblaient tellement au projet de Christian Lacroix, c'était absolument superbe. Voilà les premiers néons mis en place. Les premiers voiles que vous avez vus, il a fallu de temps en temps bouger certains, les resserrer. On ne savait pas toujours si ça allait vraiment correspondre à ce qu'on attendait. À partir de là, les restaurateurs ont commencé à travailler. Tout ce que vous voyez dans l'exposition, toutes ces coiffes qui sont installées, il y a des personnes qui ont travaillé pour les installer. C'est un travail qui est absolument très enrichissant, même pour moi. J'ai découvert toutes les différentes étapes. C'était absolument formidable. Donc là, elles sont en train de préparer les têtes de ces fameuses coiffes. Déjà, une fois qu'on a décidé qu'on allait présenter les robes volantes, donc les socles ont été déjà préparés. Et très rapidement, ces robes ont été montées sur ces supports qui sont absolument très souples. Et là, nous sommes sur la mezzanine. Les robes sont prêtes à être posées. Les restauratrices ont repassé les robes les unes après les autres. Et on a commencé l'installation à partir des plans qui avaient été prévus. Donc là, pour les parties de la mezzanine qui étaient assez dangereuses où les installateurs pouvaient tomber, ils devaient vraiment se protéger. Là, on a donc la photo de ces techniciens qui sont en train de restaurer. Et très vite, une fois les costumes accrochés, on les recouvrait avec du papier de soie pour les protéger. Sachant, en attendant la venue de Christian Lacroix pour donner son OK. Il est venu, il a demandé de temps en temps qu'on tourne certains costumes, qu'on en incline d'autres, mais dans l'ensemble, il était assez satisfait de toutes les installations. Là, on voit l'installation des mannequins, parce que là aussi, c'était le souhait de Christian Lacroix, c'est qu'il voulait que le public comprenne comment ces costumes étaient portés. C'est vrai qu'en les ouvrant, on pouvait passer à côté de quelque chose de très important. Et donc, ce sont même des mannequins qu'il nous a prêtés, les 4 qui sont là. Donc là, on voit la restauratrice qui est en train de régler quelques petits détails. Je vous raconte une anecdote par rapport à ce costume de la femme, cette femme jordanienne. Lorsque je suis allée au mois de juin pour amener les costumes de chez Madame Kawar, j'étais là avec les emballeurs, les caisses, etc. Tout était ficelé. Et là, elle se rend compte que quelque part, la partie jordanienne, à son goût, n'était pas assez riche. Et elle me dit, Hanna, est-ce qu'on peut rajouter ça dans les caisses? Je dis, c'est pas possible, on a les listes de douane, s'il y a un problème, etc. Elle était tellement elle m'a dit, mais prends-les avec toi. Bon, après avoir hésité, j'ai dit, d'accord, je vais essayer. Mais franchement, c'était une lourde responsabilité pour moi. C'était pas du tout évident. À 2h du matin, j'étais à l'aéroport de Amman en me disant, si jamais on m'arrête, je ne sais pas qui appeler. Et donc, ces costumes ont voyagé avec moi. Et franchement, je ne regrette pas. C'était une pièce absolument superbe. D'ailleurs, ces tissus... viennent de Damas, si vous avez dû le remarquer. Nous sommes dans une région qui est au sud de la Jordanie, une région qui est quand même assez désertique, mais elle était sur la route des caravanes pour le pèlerinage. Et les pèlerins qui transitaient par là passaient 2 journées dans cette ville qui s'appelle Ma'an. Ils étaient accompagnés souvent de marchands venus de Syrie qui venaient vendre leurs tissus avant de repartir faire leur pèlerinage. Et les femmes de cette cette petite ville achetaient ces tissus et faisaient leurs robes de fête avec. Elles ne sont pas brodées, mais elles sont d'une richesse. Et en fait, ces deux robes, la manche droite était beaucoup plus longue que la manche gauche. Et comme on l'a montré sur ce mannequin, la femme l'utilisait comme voile de tête. Donc voilà, on commence aussi à installer les agrandissements photos qui vont ponctuer cet espace. Donc là, comme vous avez dû le voir, ce mannequin de la femme jordanienne avec derrière une photo de femme jordanienne portant une robe de 2,50 m. Alors la pose de la moquette, là c'était aussi très important. Tout le monde attendait ce moment-là. Nous avions très très peur aussi des résultats. Christian Lacroix est parti de cette robe qui est dans l'exposition. Ce sont les broderies de cette robe qui ont servi pour la réalisation de la moquette. En fait, des photos de 3 cm ont été faites, plusieurs, agrandies 100 fois. Et voilà ce que ça a donné dans l'exposition. Ça a énormément embelli cet espace. Dernière installation, donc, dans cette fameuse boîte, à la fin du parcours, on installe les aquarelles. Vous avez dû lire donc par qui elles ont été faites, les poupées de nos collections, les fameuses robes tactiles qui sont à la fin, les coffres des mariés. On a mis tous les objets, on est en train de fermer. Et là, on le voit, ce petit compartiment dans chacun des coffres qui va permettre aux conférencières, donc elles ont les clés, elles vont pouvoir venir avec leurs clés, ouvrir, etc. Et voilà, la veille de l'exposition, tout est en place, les coiffes, les costumes, les habits, les coffres. Une dernière vue de l'exposition. Et puis voilà, le jour de l'inauguration, et énormément de monde. Les gens, dans l'ensemble, étaient contents. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de cette exposition. Et donc, je termine avec cette photo de Christian Lacroix, à qui je dois énormément. Je trouve que, quelque part, pour les femmes orientales, c'était un très bel hommage qu'il ait participé à cette exposition. Et voilà, ce que j'espère, ce que je n'ai pas arrêté de dire, c'est que j'espère que les visiteurs qui ont vu cette exposition ne se contentent pas de regarder les costumes pour leur beauté, mais qui voient derrière ces costumes des femmes qui ont brodé, des femmes qui ont cherché à adoucir leur vie et puis à exister quelque part, parce qu'on m'a raconté souvent des petites blagues assez amusantes. La coquetterie prendra toujours le dessus, et ces femmes étaient d'une grande élégance. Elles étaient couvertes de bijoux de la tête aux pieds. Et puis, c'était Madame Mehrez d'Égypte qui m'avait dit que les bédouines, elles brodaient d'une façon particulière, plus riche, l'arrière de la robe, parce qu'elle savait très bien que quand elle passait, les hommes n'allaient pas les regarder en face, mais qu'ils allaient se retourner à leur passage pour regarder. Voilà. Donc la coquetterie est là, et je pense que les femmes resteront coquettes. Et puis bon, c'était un petit peu, pendant toute l'histoire, c'était un petit peu leur façon d'exister. Voilà. Donc, merci de m'avoir écoutée. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Voilà, je n'ai pas fait une présentation scientifique, je ne vous ai pas raconté chaque costume, parce que je pense que, bon, vous pouvez l'apprendre dans le catalogue, mais je souhaitais vous faire vivre avec moi cette aventure qui, pour moi, a été formidable, et que là, quelque part, je vais avoir le baby blues, parce que ça va être le vide après ce projet. La collection de Madame Kawar date du début du XXe siècle, mais on présente aussi à la fin d'exposition ces robes modernes, années 60, 70, même 2000, faites par des femmes jordaniennes. Donc on a poussé un petit peu pour montrer un petit peu cette permanence. Sachant que les femmes aujourd'hui, certaines continuent à s'habiller avec ces tenues. On trouve dans les rues de Amman, dans les souks, des robes qui sont accrochées, des robes brodées, mais elles n'ont rien à voir avec les costumes d'aujourd'hui. C'est même un uniforme. Elles sont grises, noires, avec des broderies uniformes. Sachant qu'avant, les femmes brodaient leurs trousseaux. Chaque village avait son style. Et je trouve ça formidable. Un des journalistes m'a posé la question en me disant, Madame, qu'est-ce qu'une femme orientale, en parlant de ces femmes, peut dire à une femme comme vous vivant dans une société moderne? Bah, quelque part, je lui dis, je pense qu'elles doivent me plaindre parce que je vis dans cette société justement de consommation où le prêt-à-porter est roi et que quelque part, on s'habille tous pareil aujourd'hui. Donc, uniforme noir islamique ou costume occidental foncé, on est tous... Voilà. Et c'est ce qui a plu à Christian Lacroix, justement, c'est ce côté unique des robes, c'est ce côté, ces artistes qui sont derrière chacune de ces robes, qui, elles ne le savaient pas. Elles brodaient parce qu'elles aimaient ça et plus elles embellissaient leur... D'ailleurs, il ne suffisait pas d'être une femme qui sait cuisiner, qui va faire des enfants. Il fallait qu'elle sache broder. C'était une grande fierté pour ces femmes de savoir bien broder. Et celle qui a brodé le plus et enrichissait ses costumes de broderie, elles étaient admirées dans les villages, on parlait d'elles. Donc, c'était très important.
Mais donc, la rue n'était pas aussi colorée.
Là ?
La rue n'était pas aussi colorée.
Coloré. C'était Nerval ou Loti sur un des textes que vous avez vus,
oui,
qui trouvait que c'était coloré. Probablement, s'il le mentionne, c'est que c'était les femmes, pour la vie quotidienne, c'était des paysannes. Quand elles allaient travailler dans les champs, elles ne mettaient pas leur robe de fête. Mais pour les occasions de fête, de mariage, etc., elles s'habillaient. Donc, est-ce qu'il décrivait à ce moment-là, mais est-ce qu'il décrivait à un moment donné des fêtes Mais je l'ai lu, cette phrase. Mais je vous avoue que quand on lit les passages de ces voyageurs, c'est un vrai bonheur, parce qu'il décrit ces femmes comme des muses. Leur élégance, leur beauté. Et ce qui était assez amusant, c'est que les voyageurs de la ville ont mis très souvent en avant ces femmes qui étaient couvertes de la tête aux pieds, et que dès qu'ils sortaient dans la campagne, la première remarque qu'ils faisaient, contrairement alors aux femmes de la ville, les femmes de la campagne sont beaucoup plus libres, elles ont le visage dévoilé, etc. Donc ce sont ces femmes-là que je souhaitais mettre en avant, et c'est dans ces régions-là qu'on commence aussi à se couvrir. Donc quelque part, jamais le voile de visage n'a été imposé aux femmes paysannes comme on le voit aujourd'hui à Paris. C'était dans la ville. Oui.
Nous avons pu admirer, vous l'avez bien expliqué, la variété absolument extraordinaire des broderies. Et par contre, je suis très surprise de l'uniformité des formes. Alors, vous nous avez expliqué que vous avez ciblé vos régions.
En fait, j'ai ciblé, sachant que c'était regarder un petit peu les quand on a des représentations de costumes coptes, etc. C'était la même forme. La forme n'a pas évolué. Autant il y avait une permanence. Il n'y a pas eu vraiment de contact. C'était cette permanence et cette permanence que je trouve extraordinaire. Autant en Europe, on voit qu'à un certain moment, les formes vont commencer à bouger. Là, il y a une mode qui s'est installée et qui est restée. Il y avait un certain confort dans ces coupes, une certaine simplicité. Même les manteaux que les femmes portent, elles se sont inspirées un peu des caftans. Elles les ont brodés à leur façon. Mais il y a une permanence dans ces costumes. On regarde un petit peu les banquets à Palmyre, quand on voit les hommes avec les pantalons bouffants, elles continuent à mettre ces pantalons et les embellissent. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir cette continuité, même les coiffes en forme de cône. On regarde un petit peu une petite statuette d'une divinité de Sumer et on regarde la femme de Bethléem. Voilà, les coiffes étaient un élément très important du costume des populations du Proche-Orient. Coiffes, voiles, ça a de tout temps existé. Mais c'est vrai qu'il y a une permanence qui est assez formidable, c'est sûr. Merci de m'avoir écouté. Et très bon week-end.